la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur JetFM et cette semaine, je lis un livre de Mina Kandasamy qui s'intitule « Quand je te frappe ». C'est son deuxième roman, traduit de l'anglais, de l'Inde, par Myriam Belhig, et c'est aux éditions Actes Sud en 2020 qu'a été publié ce livre, originellement écrit en 2017, et qui relate de manière assez directe, à peine fictionnée, le récit, le quotidien qu'a été pendant quelques mois, une petite année je crois, celui de Mina Kandasamy, qui est journaliste, qui est militante féministe, et qui s'était mariée à un homme, un universitaire, marxiste, résolument violent, d'où ce titre « Quand je te frappe », et c'est ce qui est détaillé de manière assez clinique, presque distanciée, parfois ironique, par l'autrice dans ce livre assez dur, mais très puissant, qui fait quelques 250 pages, et dont je vais vous lire un extrait, là où j'en suis rendu. Pourquoi je lis Mina Kandasamy? Tout d'abord parce que c'est une très belle écriture et que c'est assez puissant comme récit, mais surtout parce que vient d'être traduit, ou plutôt va être traduit là dans les semaines qui viennent, début janvier, un premier recueil de poésie. Elle en a écrit quelques-uns, mais jamais pour le moment n'avait été traduit son travail de poésie en français. Les éditions Lanskin s'en emparent et proposent donc un ouvrage de poésie de Mina Kandasamy qui est invitée par la Maison de la Poésie pour une rencontre publique que je vais avoir le plaisir d'animer le 16 janvier prochain, et elle sera aussi en résidence à la maison Julien Gracq de Saint-Florent-le-Viel. C'est donc plein de bonnes raisons de croiser Mina Kandasamy et de lire son travail, ses romans comme sa poésie. Alors, voici un petit extrait de ce livre « Quand je te frappe ». Le chapitre 6. Il est communément admis que les écrivains fouillent les ruines, explorent le passé, dans lequel ils se situent toujours. Ce qui est vrai. Mais il arrive aussi, parfois, étrangement, qu'ils se situent ailleurs. Mon mari m'invective, me gifle, balance mon ordinateur à travers la petite cuisine, m'oblige à effacer un manuscrit, un texte non fictionnel sur lequel je travaille, parce qu'apparaît sur une des pages le mot « amant ». Il m'accuse d'importer mon passé dans notre présent. Trahison qui lui suffit à déduire que le futur n'a aucun espoir de prospérer, aucun espace pour se déployer. Je ne l'écoute déjà plus. Je n'ai pas du tout l'intention de répondre. Je m'imagine dans le futur en train d'écrire cette scène, cette dispute, ces gifles qui laissent une marque cuisante sur mes joues et ne s'arrêtent que lorsque j'ai effacé ce que j'ai écrit. Je m'imagine en train d'écrire sur la bataille que je suis contrainte de mener pour la liberté d'expression contre celui que j'ai épousé, en train d'écrire sur l'homme que j'ai épousé et sur ce que notre couple est devenu, sur cette dispute à propos de la liberté d'expression. Je pense au jour où je serai en train d'écrire tout ça, consciente de penser à ce jour-là et non pas au moment présent. Je sais que j'ai déjà fui le présent et je reprends espoir. Je dois juste attendre que ça cesse. Attendre de pouvoir écrire de nouveau. Je sais que ça arrivera parce que je vais écrire tout ça. Je sais que ça aura une fin. Qu'est-ce que mon mari sait de l'amour? Est-ce qu'en effaçant un email, un manuscrit en cours, une référence Wikipédia générée aléatoirement par l'utilisateur, l'historique de toutes les connexions Bluetooth entre mon téléphone et d'autres appareils, j'efface ce que j'ai ressenti pour quelqu'un? Si la trace matérielle n'existe plus, le souvenir disparaît-il lui aussi? J'écris des lettres d'amour à des amants que je n'ai jamais vus ni entendus, à des amants qui n'existent pas, à des amants que j'invente les matins de solitude. Je crée un dossier, rédige un paragraphe ou une page que j'efface avant le déjeuner. Le simple plaisir de pouvoir écrire quelque chose auquel mon mari n'aura jamais accès. Se venger en écrivant le mot « amant » encore et encore. Savoir que je peux le faire, que je peux m'en tirer impunément. Le défi, la hargne, l'envie de tourner le couteau dans la plaie de son orgueil, de reconquérir mon espace, mon droit d'écrire. Lettre à un amant. Ceci n'est pas une lettre d'amour classique. Je ne te parle pas des moineaux que j'espionne, perchés sur le rebord de ma fenêtre. Je ne te raconte pas la vilaine dispute que j'ai surprise entre deux bonnes sœurs qui passaient devant chez moi. Aujourd'hui, alors que je commence cette lettre, Je choisis la gravité pour aborder des sujets qui me dépassent et te dépassent toi aussi. Je me demande comment mon opportuniste de mari a pu gagner ses galons dans un parti politique que j'ai toujours respecté. Comment il a manigancé à chaque étape pour prendre le pouvoir. Comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Malgré toutes ces louanges de l'introspection et de l'autocritique, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas percé à jour ? Ont-ils pris ce qu'ils ont vu à la légère, attribuant son attitude à certaines tendances féodales patriarcales très répandues chez ceux qui ont grandi dans un petit village ? N'ont-ils pas vu comment il se comportait avec les femmes ? Ont-ils accepté ses agissements ? Ont-ils essayé de les désapprouver ? Ou éprouvaient-ils eux-mêmes, envers les féministes, le même genre d'irritation et de mépris ? Les intégristes réservaient-ils amour et respect aux seules rebelles armées, à celles qui participaient et applaudissaient à toutes les réunions du parti, à celles qui distribuaient des tracts et concevaient des affiches ? Comment ces femmes ont-elles survécu à la violence et à l'agressivité de tous ces hommes embrigadés ? Ont-elles quitté le parti ? Se sont-elles battues ? Ont-elles renoncé à leur sexualité ? Ou l'ont-elles troqué pour simplifier les relations au sein de l'organisation ? Je suis tombée amoureuse de celui que j'ai épousé, car les propos qu'il tenait sur la Révolution me semblaient plus intenses que n'importe quel poème, plus émouvants que n'importe quelle forme de beauté. Je ne suis plus convaincue. Pour un révolutionnaire sincère, on compte aussi un carriériste qui bat sa femme, un opportuniste, un manipulateur, un infiltré, un fonceur, un lécheur de bottes, un alcoolique et un drogué. Pour tout militant qui perd sa vie au front, débarque un tricheur revendiquant la grandeur du défunt. Pour tout penseur original, un perroquet revendiquant la sagesse de celui-ci. Les partis se construisent sur les épaules de vrais héros, se nourrissent du sang que ceux-ci ont versé, tandis que les imposteurs font la fête. Voilà pourquoi je me languis de toi. Toi sans mascarade, toi sans glorieux combat à mener, toi, resplendissant dans ta propre lumière, niché dans ta propre obscurité. Toi, sans zèle excessif. Toi, avec tes mots et c'est tout, sans théorie prétentieuse. Toi qui m'as dit un matin de pluie qu'à ta mort, tu souhaitais être enterré dans mes cheveux. Toi, toujours le même, qui a épousé une autre fille 3 ans plus tard. Toi, avec toutes tes contradictions. Toi, qui ne fais pas de promesses. Toi, qui ne juge pas. Tu es bien réel et, dans l'immédiat, j'ai besoin de ta réalité. Lettre à un amant. Je t'écris parce que je peux le faire. Je n'ai rien de concret à raconter. Aujourd'hui est un jour sans nouvelles pensées. Tout ce à quoi je pense finit toujours par me ramener à mon mariage. La chaleur suffocante, le creux et les bosses dans la chaussée. Les tiges de canne à sucre semblables à de longs os fragiles que l'on écrase pour en extraire le plus sucré des jus. Les histoires d'adolescents malmenés en ville par la police des mœurs. Les curies locaux d'un orange trompeur. Tout devient métaphore. Je me dis que je vais aborder des sujets sans rapport avec moi. Impossible. J'ai l'impression que je suis le parfait exemple de la personne tombée dans un piège. Prisonnière. Elle se libère en pensant à autre chose. Et en même temps, tout ce à quoi elle pense la renvoie à sa captivité. Quand l'évidence se fait trop présente, mieux vaut faire semblant de ne pas la voir. Lettre à un amant. Tu sais tout aussi bien que moi, mon amour, qu'il est difficile de rester dans le cadre du langage sans éprouver de désir. La charge sexuelle est omniprésente dans les langues anciennes. Les mots recelant toujours de multiples significations. N'est-ce pas la raison pour laquelle 2 amants en train de converser donnent l'impression de se titiller gentiment ? Flirter, c'est donner un sens nouveau à chaque mot. J'en viens à te faire mien en construisant une petite hutte à l'intérieur de chacun de tes mots et en m'y installant à tes côtés pour observer les couchers de soleil. Quand tu me dis que tu vas raser ta barbe de 3 jours, je te souffle à l'oreille que ma propre peau est en feu, comme soudainement au contact d'une lame. J'associe le mot « baiser » à l'idée de clandestinité. J'introduis subrepticement l'idée de ma propre personne dans le mot « caresse ». Tu ne peux me déloger de chacun de tes mots que j'occupe méticuleusement. Le mariage a anéanti mon romantisme en m'apprenant qu'il peut rendre la beauté grossière. Chienne, pute, salope. Et pourtant, en dépit de toutes les insultes que mon mari me balance à la figure, le langage conserve son charme. L'anglais fait de moi une amante, une amoureuse, une poète. Le tamoul fait de moi une chasseuse de mots, une déesse de l'amour. Une théorie linguistique avance que les structures d'une langue déterminent le mode de pensée et de conduite de la culture dans laquelle cette langue est parlée. Quand j'essaie d'analyser ma vie actuelle, j'élabore un distant corollaire, un cousin éloigné de cette théorie. Ce que l'on sait dans une langue, me semble-t-il, montre qui on est en lien avec cette langue. Ce n'est pas tant que la langue informe notre façon de voir le monde, mais plutôt, à l'exact opposé, que notre façon de voir le monde informe les parties de la langue que nous choisissons. Pas seulement. Nous sommes un produit de notre langue, la langue nous enferme dans une manière de voir les choses. Mais aussi, ce que nous sommes détermine la langue que nous habitons. La prison de notre existence ne nous autorise à utiliser que certains pans de la langue. Aujourd'hui, à Mangalore, je connais les termes Kannada suivants. Eshtul, combien? Halu, lait. Andal, œuf. Namaskarami, je vous salue. Niruli, oignon. Andatil, épouse. Illi, ici. Hadul, celui-là. Hilal, non. Saaku, assez. Nanu, Nandiguda, Ogabeku. Je veux aller à Nandiguda. Je peux citer un à un tous les mots Kannada que j'ai prononcés dans ma vie. Dans cette langue, je ne suis qu'une épouse. Lettre à un amant. Dans ma vie d'épouse, les moments les plus terribles sont les après-midi. Ils s'étalent et m'emplissent d'effroi. Je dois anticiper son retour. Je dois lui prouver que j'ai été bien occupé. Me voici englué dans l'affolement, englué dans un temps dont je ne peux me défaire par ma seule volonté, dont je ne peux rien faire. Les minutes enflent jusqu'à devenir des monstres informes. À travers leur silence et leur immobilité, les après-midi commencent à susurrer l'idée du suicide. Vas-y maintenant, ça ne sera pas douloureux. Ce sera terminé avant même que tu t'en rendes compte. Une partie de moi-même s'étonne de découvrir qu'au bout de quelques mois à peine, je doive jongler avec cette idée, puis passer le reste de mon temps à la combattre. Quand il s'agit de choisir, j'oscille sur un pendule. Vivre, mourir, mourir, vivre, vivre, mourir, mourir, mourir. J'ignore si je suis encore vivante. C'est le genre de vie qui ressemble à la mort. Sans oublier les morts qui se sentent vivants. À une centaine de mètres de chez moi se trouve le cimetière de Nandiguda. Lorsque les fantômes se lèvent et décident de s'arrêter à la première maison qu'ils croisent pour demander un verre d'eau, c'est chez moi qu'ils frappent. Au début, je refusais d'ouvrir, mais maintenant, je les laisse entrer. Les visites les plus régulières sont celles de quatre pleureuses qui ont toutes, à un moment donné, porté le nom de Madame Mohan Cyanure. Quand elles arrivent, on ne distingue pas leurs traits. Toutes se sont enfuies avec cet homme qui promettait de les épouser. Toutes ont absorbé une poudre spéciale présentée comme un contraceptif. Toutes ont été retrouvées mortes dans les toilettes d'un terminal de bus ou d'un hôtel. Leurs corps n'ont jamais été réclamés par les familles qui ignoraient complètement où se trouvaient leurs filles. 20 femmes, ou peut-être davantage, sont tombées sous le charme de Mohan avant que la police ne commence à établir des liens entre toutes ces affaires. 4 d'entre elles, délaissées à la morgue de Mangalore, ont été emmenées à Nandiguda pour la cérémonie funèbre. Aujourd'hui, elles rendent visite à la jeune mariée que je suis moi aussi, qui, comme elle, s'est mariée précipitamment. Un autre homme, une autre terreur, mais quelque chose les pousse tout de même vers moi. La curiosité, peut-être. Bien qu'elles aient toutes fini de la même manière, ce sont des épouses jalouses qui ne se parlent pas. Ça, je le sais bien. Lettre à un amant. J'ai appris à ne pas bouger et à me taire quand je suis au lit avec mon mari. Je médite même. Contrôle-toi, me dit-il. Pas sur le ton de l'amant qui ne veut pas réveiller son voisin, mais sur celui du prof en colère. Je deviens l'épouse telle qu'on la voit dans le cinéma indien, sur grand écran. L'acte sacré de la sexualité conjugale est montré à travers mon poing orné de bracelets qui agrippe le drap brusquement pour signaler au spectateur que la saillie a été rapide. Le Tarantino tamoul choisira plutôt un gros plan sur mes orteils qui se rétractent puis se figent. Autrement, la scène de sexe ne requerra de la femme ni bruit ni mouvement supplémentaire. La nature de la sexualité tient en grande partie au fait qu'on s'autorise à être soi-même. Cette individualité qui diffère selon les amants, férocité, maladresse, timidité, est ce qui introduit de la variété, ce qui modifie la nature du plaisir d'une fois à l'autre, d'un amant à un autre. À jouer jour après jour le rôle de partenaire immobile, passive et soumise, une femme finit par tisser une relation avec son plafond et non avec son amant. Mon mari n'a pas ses connaissances de base car Marx, Lénine et Mao ne les ont pas clairement exposés et que le plaisir sexuel des camarades n'est pas un sujet chez les classes en voie de déclassement. Je pense à toi et à moi. Journée agitée, personnelle dans le couloir de l'hôtel, notre première fois. Toi, l'homme qui ne me bâillonne pas, me laisse m'exprimer, me laisse crier. L'espace de quelques instants, c'est mon vœu le plus cher en ce monde. Une sorte d'alunissage. Comme si j'étais enfin autorisé à être moi-même, comme si quelqu'un avait tamponné mon passeport et m'avait dit « oui, tu es libre de visiter ce pays, libre de crier autant que tu veux tout ce que tu veux ». Je ne suis pas sûr qu'on se soit rencontrés. Il me semble que tu ne sais pas que j'existe. Fais-moi confiance, mon amour, tu vas le savoir. Tandis que j'écris à ces amants invisibles qu'il me reste à découvrir, me reviennent les mots de mon grand amour. Me voilà clandestinement renvoyé entre ses bras grâce à ses mots et au rythme de ses discours publics convaincants. Mon cœur est en grève aujourd'hui. Pas de circulation, tout est suspendu, les volets sont fermés, les gens claquemurés. Tu es la seule à être officieusement autorisée à parcourir mes rues, à danser si tu le veux, à chanter si tu y tiens. Mais mon amour, tu n'ouvres même pas ta fenêtre pour me regarder. Et pendant ce temps, on brûle des bus, on fracasse des vitrines, on fait appel à la police. Il y a des slogans, des banderoles, des manifestations, mais tu ne bronches pas. J'ai beau faire du bruit, je suis seul. Tu n'envoies pas de messages, pas même des bouts de poèmes. Tu ne me demandes pas si je suis vivant. Tu me manques. Pour essayer de surprendre ton odeur ou la silhouette de quelqu'un qui te ressemblerait, j'ouvre ma fenêtre. De là où je suis, je ne vois personne. Je ne vois que le ciel et je regarde les nuages construire des ponts entre eux. Ils sont immenses et progressent lentement en cet été de feu. Mais ils parviennent à se rapprocher plus vite que nous. Déçu, je referme la fenêtre. J'éteins les lumières, mais tu ne viens pas. Tu m'abandonnes à ma solitude. Tu es cruel. Je m'allonge et je t'attends. Aucun mouvement, juste le silence, rompu de temps à autre quand je mets de la musique. Je patiente. Je guette le moindre signe de toi. À force d'attendre, je finis par vieillir. Toi qui m'as expliqué que l'amour était une forme d'adoption, tu m'as abandonné. Je pourrais mettre fin à mes jours, et tu ne le découvrirais que dans les actualités du soir ou dans les journaux du lendemain. Je pourrais me mutiler, saigner, et tu n'en saurais rien. Tu ne verseras pas une larme, car tu n'es pas au courant. Tu ne me supplieras pas d'arrêter, car tu n'es pas au courant. Tu ne prendras pas ma main entre tes doigts nerveux, tu ne me réconforteras pas de tes baisers, tu n'éclateras pas en sanglots en me voyant souffrir. Il ne se passera rien, mon amour, car tu es ailleurs. Je suis à la maison, allongé sur notre lit conjugal, et c'est ainsi que je faute, en retranscrivant de mémoire les mots d'un ancien amour. Un délit d'opinion, selon mon mari. Je ne ressens aucune culpabilité. Aucun de ces coups de poing ou de ceinture ne suscitera en moi la moindre culpabilité. En ce moment précis, je ne ressens que le plaisir de la rébellion, le réconfort de mots longtemps oubliés grâce auxquels je me sens maintenant en sécurité, aimé. Lettre à un amant. Moi, en train de t'écrire, comment est-ce que je voudrais que tu m'imagines ? Pas comme une femme au regard intense en train de taper furieusement sur un ordinateur portable un truc qu'elle effacera dès que la soirée rôdera devant sa porte. Ça, c'est l'image d'une épouse écrivaine, mais je ne suis pas écrivaine en dehors de ces quelques instants volés. Recompose donc mentalement cette mise en scène de moi-même. Mais s'il te plaît, ne choisis pas l'image d'une femme battue. Elle va s'imprimer dans ton esprit, et plus tu y penseras, moins tu pourras te lier à moi, m'aimer naturellement. Tu m'aimeras comme une cicatrice aime une blessure. Or, je mérite mieux. Pour l'instant, imagine-moi dans cette cuisine. La cuisine est la plus petite pièce de la maison, mais j'y suis en paix. Alors que tout chez moi le rend fou de rage, la nourriture que je prépare parvient à l'apaiser. C'est la seule chose qui trouve grâce à ses yeux. Ce sur quoi je peux essayer de m'appuyer pour me laisser aller à croire à un semblant de mariage heureux. Dans la cuisine, je découvre un grain de foie et de moutarde. L'unique cessez-le-feu vient de mes petits plats. Quand on parle de repas, il ne me soupçonne de rien. Si tu devais raconter cette histoire, choisis la version Bildungsroman culinaire, avec flashback dans des forêts de pins et des plantations d'orangers. Pour le rôle du guerriero Naxalite, choisis un grand trentenaire plutôt maigre qui a beaucoup de mal à manger correctement en clandestinité, membre d'un escadron de 12 hommes armés survivant dans des conditions inhospitalières. Après une telle expérience, pas étonnant qu'il soigne son palais. C'est pourquoi il adore mes plats. Et même s'il donne son avis et me fait la leçon sur les déchets que je pourrais limiter ou le temps que je pourrais gagner, la cuisine est le seul endroit où il s'en remet à moi. Le seul domaine de notre mariage où j'ai le dessus. Souviens-toi, mon cher amant, que si tu dois un jour réaliser le film de mon existence, la nourriture devra éclipser les protagonistes de la maison. L'éveil des sens avec la séquence montrant des morceaux de tomates rouges rejoindre dans la poêle piment vert et oignon rose pâle. L'odeur de tamarin qui parfume un curry de poulet et lui donne une belle couleur brune. Le vert profond des haricots de gare parsemé de graines de moutarde marron foncé et de poudre de riz grillée blanche. Toute la luxuriance d'une ville d'origine lointaine, contenue dans la julienne de bananes macérées dans du lait fermenté, égouttée puis sautée au cumin avant d'être agrémentée de noix de coco râpées, d'une pincée de curcuma et de piment rouge. Le frémissement de l'huile alors qu'on jette successivement dans la poêle des clous de girofle qui embaument, des bâtons de cannelle, le fenugrec et l'anis étoilé. Des termites volant habilement capturées un soir de mousson comme petit encas original. Et à travers la mise en scène de tous ces banquets raffinés, s'ébauchera l'image d'un bonheur conjugal que mon mari, s'escrime, à contrefaire. Tu verras comment je me glisse avec empressement dans les habits d'épouse modèle. Mais j'ai appris que la nourriture pouvait aussi trahir mes secrets. Pour mon mari, je ne prépare que les plats que mon père m'a transmis. Je n'innove pas. Je ne reproduis pas ce que j'ai déjà fait pour mes amants, ni ce que j'ai l'intention de faire pour toi. Chaque jour, je lui sers une cuisine érigée en déclaration de chasteté. Lettre à un amant. Hier, j'ai pensé aux hommes dans toute leur diversité, les minces, les grands, les clairs de peau, les foncés, les lestes, les retenus. Bref, tout ce qui passait par mon esprit obscène. Pendant 3 heures, j'ai été l'otage de mon mari qui m'a fait tout un sermon sur le rôle des habits. Quand la notion de classe disparaît, il n'y a plus de masculin ni de féminin. C'est la société de classe qui engendre le concept de honte. Quand la honte disparaîtra, on sera tout nu. La parade masculine qui défilait dans ma tête m'a d'abord servi de distraction pour me détacher de ce discours ennuyeux. Mais plus il insistait, une société sans classe sera une société dénudée. La sexualisation du corps nu résulte des forces du marché. plus je prenais un malin plaisir à profiter pleinement de tous ces hommes qui hantaient mon esprit. Ce grand discours sur la nudité n'est que l'hypocrisie larvée. Je ne sais que trop bien que mon mari contrôle tout ce que je porte. J'ai même fait l'erreur d'en parler à ma mère. L'amour se loge dans les détails, m'a-t-elle dit au téléphone. Habille-toi comme il veut, ne t'obstine pas, ne t'échine pas sur ses broutilles. La beauté fait peur aux hommes. Ils veulent la cacher chez leur épouse, mais une fois en ville, tordus comme ils sont, ils reluquent la première fille venue. Désolé, ma chère maman, mais je ne suis pas d'accord. Les vêtements ne devraient pas être un sujet de conflit, un objet de contrôle et de mortification. Quand je pense aux vêtements, je pense à la façon dont les hommes se déshabillent. Cette joie renouvelée d'observer un amant maladroit retirer prestement sa chemise, d'abord la manche gauche, puis l'ensemble par-dessus la tête. Je pense aux femmes pour qui il est naturel de s'habiller et se déshabiller en compagnie, à nos vêtements qui sont faits pour être manipulés par nos amis. La fermeture éclair le long d'une robe, le crochet d'un soutien-gorge, les plis dans le dos d'un sari, comme si nous n'accédions à notre plénitude qu'en nous aidant les unes les autres à nous vêtir. Tu ne m'entendras évoquer que les habits que nous avons eu envie d'enlever, ceux qui nous rappellent notre aventure. Cette écharpe que tu m'as rapportée d'un voyage au Moyen-Orient, que je ne t'ai pas demandé de sortir de peur de trahir l'importance que j'accordais à tes sentiments, que je n'ai pas accepté de peur que tu regrettes ton geste par la suite. Cette écharpe comme preuve d'amour et faux espoir d'engagement. Le top d'eau nue rouge Bordeaux que j'ai laissé dans ton appartement, celui avec un petit balcon et une chambre au-dessus de lits bleus, cobalt et aux rideaux blancs. Parce qu'en laissant quelque chose derrière moi, j'espérais revenir, te retrouver, retrouver cette écharpe, dissoudre nos nuits dans la poésie, la politique et les pires blagues qui puissent exister. Lettre à un amant. Je t'écris cette lettre en sachant que tu seras furieux quand tu verras le nom de Derrida. Tu diras que c'est du flan, l'insulte la plus raffinée que tu trouveras à lancer avec ton accent français. Pour me prouver que tu peux faire plus obscur encore, tu prendras la plume et produiras cette phrase que les esprits les plus affûtés ne sauront déchiffrer. Non, 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 ce n'est pas la scène que l'on prépare. Il ne s'agit en aucun cas d'un piège. Il s'agit de quelqu'un d'autre, d'une auteure française que Derrida estime être la meilleure. Cela devrait suffire à ce que tu t'y intéresses. J'ai lu « Hyper rêve » d'Hélène Sissou. Il y a dans ce livre une phrase qui ne me quitte plus, une phrase qui s'enroule autour d'une action, parcourt la vie d'une femme en train de penser à la douleur et à la survie alors qu'elle applique sur la peau de sa mère une sorte de baume. Et je comprends que c'est ainsi que les mots pénètrent, par mouvements circulaires, doucement introduits à coups de caresses dans le corps, les écorchures jusqu'au système sanguin. Je peux produire une analyse de 45 pages sur cette phrase sinueuse. Elle peut illustrer le concept de phrase féminine. Elle peut m'aider à présenter une communication. Mais surtout, cette phrase m'a transformé, me forçant à regarder autrement la peau sombre de ma mère. J'imagine la peau que tu vois, si souvent décrite, blanche, teintée de rose avec une touche de jaune paille. Dans le roman de Sixou, il y a un problème de peau. Dans mon univers à moi, la peau est un problème. Aucun Jacques Derrida n'écrira pour moi une quatrième de couverture, quelle que soit notre intimité téléphonique, quel que soit mon engagement de femme pour la cause des femmes dans le monde. Notre peau ne laisse pas passer la lumière, aucune perméabilité ne donne à voir un reflet de gloire. Les femmes, comme moi, à la peau sombre, ont du mal à s'imposer dans les cercles intellectuels et féministes. À moins de se transformer en femme alibi à la voix douce, triée sur le volet pour divertir un public blanc qui ne demande qu'à être ébloui. Je ne peux rivaliser avec Sixou. Pas maintenant, pas encore, jamais. J'adore Sixou. J'ai presque envie, dans ma thèse imaginaire, de l'appeler par son prénom, Hélène, mais je me détourne de ce roman, de cet hyper rêve. La langue française qui s'est infiltrée dans la traduction est peut-être ce qui le sauve. Tous ces mots français en italique, recelant un pouvoir qui n'a pas colonisé mon pays, bien qu'il ait fait des ravages ailleurs, sont peut-être la clé. Si je leur donne une chance, ce sont ces mots, ceux qui ne sont pas ambigus, contrairement par exemple à l'adverbe « encore », qui doivent expliquer et contenir la rage que je crie contre le langage, contre la littérature, contre tout ce qui est imparfait et tordu. Après avoir parcouru de nombreuses pages, je trouve ceci « Dieu n'a pas Dieu ». Cette phrase est un coup de poing. Effectivement, Dieu n'a pas vu le sourire qui illumine le visage d'une fillette la première fois qu'elle éclipse le soleil de ses mains, ni les larmes d'une femme battue quand elle pense aux enfants qu'elle n'a pas eus. Lettre à un amant. Voici la lettre que je t'écris depuis des jours. J'habite à Mangalore, où la pluie s'immisce dans les moindres détails de nos vies privées. Comment alors te parler de la pluie en quelques mots? Les pinces à linge laissées sur le fil se mouillent, des gouttes perlent à leur extrémité. Fuchsia, bleu-vert, fuchsia, bleu-vert, fuchsia de nouveau. Quand j'étais petite, je les adorais, je les accrochais les unes aux autres, jusqu'à former une longue guirlande que je traînais derrière moi dans toute la maison, une caravane de pinces à linge, sans oublier, en guise de collier de pâquerette, une tresse de trombone associée selon une logique de couleur bien précise. Après le mariage, fini ce genre de distraction. Tout a une forme et une fonction spécifique. Tout a une place. Les pinces à linge sur le fil à linge, les trombones sur la table, les cintres dans le placard, l'épouse dans la cuisine, la femme soumise entre les draps. J'ouvre la porte d'entrée pour observer le rideau de pluie ininterrompu. C'est le soulagement et le répit que je recherche après la touffeur de l'intérieur où je suis resté enfermé. Cette pluie apporte avec elle l'odeur d'anciens amants. En elle, je cache mes souvenirs des jours heureux. Sur son rythme, je scande les noms des hommes que je désire. Sous cette pluie, mon corps m'obéit, se détend, oublie les bonnes manières exigées des bonnes épouses. Sous cette pluie, je dissimule l'humidité honteuse que je sens soudain entre mes cuisses. Sous cette pluie, je noie le silence dans mon sang, je me lave de toute culpabilité. Je suis marié, je suis enchaîné à ce destin, je suis en paix avec la vie. C'est cette pluie qui me dit sur tous les tons que je dois fuir. Elle comprend mon malheur, m'emplit de tristesse et d'attente, sème les graines de la discorde, m'enferme dans des silences irrévocables, donne forme à la lettre que j'écris. J'efface chacune de ces lettres après les avoir tapées. Chaque ligne que je t'écris est un délit d'opinion. Délit qui ne laisse aucune trace, délit qui n'en est même pas un. Si mon mari m'interroge un jour à ce sujet, je prévois de lui retourner son argument. Puisqu'il n'y a pas de base matérielle, que veux-tu que je fasse ? C'était le chapitre 6 du livre de Meena Kandasamy, « Quand je te frappe », traduit de l'anglais de l'Inde par Myriam Belleig aux éditions Actes Sud. Meena Kandasamy est présente le 16 janvier prochain à l'initiative de la Maison de la Poésie pour une rencontre autour de son premier recueil traduit en français de poésie.